أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. Donc nous avions vu la fois précédente sur le jugement rationnel qui se divise en trois. La raison est une source de connaissances catégoriques et réfutables. Avec la nouvelle, la véridique et les sens qui sont saints, qu'on expliquera après, Inch'Allah. Donc le jugement, c'est confirmer une chose pour une chose ou nier une chose pour une chose. Et la raison, c'est une caractéristique que Dieu a créée dans l'être humain, et les anges et les djinns. La personne qui a la raison, elle va rendre des comptes. Celui qui n'a pas la raison toute sa vie, aussi bien avant la puberté qu'après, il ne rend pas des comptes. Donc la personne n'a pas d'excuse si elle suit une croyance contraire à la raison. Et on a vu que l'islam est la seule religion conforme à la raison. Parce que rationnellement, on verra en détail aussi, un corps, que ce soit vache, statue ou quelque chose qui habiterait le ciel, ou le soleil, ou la lune, ou un homme, ne peut pas être Dieu parce qu'il a besoin de qui l'a quantifié, de qui l'a spécifié. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc c'est l'impossible rationnel. Le corps ne peut pas créer un corps. Et on a vu le jugement, selon la raison, se divise en trois. Ce qui admet la confirmation seulement, il n'admet pas donc la négation. Donc on a vu, par exemple, un corps est obligatoirement limité, c'est-à-dire qu'il occupe un espace. Et de même, le fait que la partie d'un objet est inférieure à tout l'objet. Et on a dit le seul être qui a l'existence obligatoire, c'est Dieu. Le seul être qui a l'existence obligatoire selon la raison est Dieu. Autre que Dieu, c'est les créatures, ont une existence possible. C'est-à-dire, rationnellement, ils admettent le fait d'exister après néant et de s'anéantir après existence. L'impossible, selon la raison, n'admet pas la confirmation. Par exemple, l'associer à Dieu est impossible selon la raison, donc on verra les preuves. De même, la réunion de deux choses opposées est impossible selon la raison, tels que le mouvement et l'immobilité, ou la vie et la mort. Ainsi, il est impossible, selon la raison, qu'un objet soit au mouvement et immobile à la fois. C'est impossible que la partie d'une chose soit plus grande que toute la chose. Et ce qui est possible, selon la raison, c'est ce qui admet parfois la confirmation et parfois la négation. Par exemple, le corps admet soit le mouvement ou l'immobilité, le fait d'exister ou non, telle forme ou telle autre. Donc si le corps existe, c'est que Dieu, le Créateur, l'a spécifié par le fait d'exister au lieu de ne pas exister. Donc ces créatures-là sont une preuve de l'existence de Dieu qui les a spécifiées par le fait d'exister au lieu de ne pas exister, d'exister avec telle quantité au lieu d'une autre et par le fait d'exister à telle époque au lieu d'une autre. Donc on arrivait à ce point-là. Donc maintenant c'est en détail. Donc c'est un devoir d'ordre communautaire de connaître les preuves en détail pour défendre la religion de ceux qui veulent semer le doute ou donc veulent égarer les gens. Donc comme on l'a vu de toutes les manières, la personne qui contredit ses règles de base, il nie l'existence de Dieu ou il adore un corps comme certaines sectes qui pensent que Dieu c'est un vieillard qui habiterait le ciel ou un corps quelconque, il y a unanimité sur la mécréance de celui qui dit cela, ou qui croit cela, comme a cité Mayara, par exemple, parce que les explications sur la raison, on a dit, c'est tiré de le commentaire de Mayara sur Ibn Asher. Et ça, c'est, il dit, il y a unanimité que celui qui croit que Dieu est un corps, ou trois, il est mécréant, qu'il ait fait un effort pour trouver cette croyance, ou qu'il l'a suivi. Donc, preuve que l'univers est créé, c'est-à-dire qu'il a un début. Lorsque nous disons que quelque chose est créé, cela signifie qu'elle existe après ne pas avoir existé. Donc elle est entrée en existence. Donc créer, dans ce sens-là, c'est valable que pour Dieu. Seul Dieu fait passer les choses du néant à l'existence. La preuve rationnelle que l'univers est entré en existence est la suivante. L'univers est composé de substances et de caractéristiques des substances. Dieu a créé le monde en deux sortes, les substances et leurs caractéristiques. Une substance, c'est-à-dire un corps, c'est ce qui est localisé en soi, comme un mur, une pierre, etc. Donc il y a, bien sûr, la substance élémentaire, c'est le, c'est la partie la plus petite que Dieu a créée, qui ne se divise pas tellement elle est petite. Et un corps est composé de deux substances ou plus. Et le corps, il peut être corps palpable ou impalpable. Dieu a créé les corps palpables qu'on saisit à la main, comme les pierres, les plantes, les humains, et les corps impalpables, comme l'air, l'obscurité, la lumière, les âmes, les anges. Et ces corps-là, ils ont des caractéristiques. Une caractéristique, c'est ce qui n'est pas localisé en soi, mais est localisé par le biais d'autres choses, comme la couleur, le mouvement ou l'immobilité du corps. La couleur n'existe pas en tant que telle, mais c'est la couleur par rapport à un corps, donc c'est sa localisation suit la localisation du corps. Donc ce sont des caractéristiques. Il y en a environ une quarantaine. Froideur, chaleur, les différents goûts, la pensée, la connaissance de l'être humain, sa volonté, sa science, tout ça font partie des caractéristiques. Donc au final, notre volonté est créée par Dieu. Notre pensée est créée par Dieu. Donc on a une volonté, mais c'est créé par Dieu tout simplement. Ce choix-là, ces sentiments de vouloir, etc., tout est créé par Dieu, ça fait partie des caractéristiques. Et la raison est une caractéristique. Donc nous disons que le corps ne se dispense pas d'être soit en mouvement, soit immobile. Donc c'est ce que disent les savants en fait de l'islam, en détail. Donc il y a la preuve globale, elle est facile pour tout musulman. Tout musulman, il doit avoir cette... La plupart des musulmans, ils ont cette preuve-là, et c'est un devoir sur chaque musulman, c'est une preuve globale. Et de dire, moi, j'existais pas, après, j'ai existé. Donc forcément, il y a qui m'a spécifié par le fait d'exister ou de ne pas exister, ça, c'est une preuve globale. Il y a la preuve détaillée, donc, le corps ne dispense pas d'être soit en mouvement, soit immobile. Et ces deux choses sont toutes deux entrées en existence. Car du fait de l'entrée en existence de l'un d'eux, l'autre s'anéantit. S'il y a le mouvement, il n'y a plus d'immobilité. S'il y a l'immobilité, il n'y a plus de mouvement. Et le corps ne se dispense pas ces choses-là. C'est-à-dire, nécessairement, un corps est soit en mouvement, soit immobile. C'est une obligation rationnelle. C'est impossible qu'il y ait un corps qui soit ni en mouvement, ni immobile. Or, ce qui ne se dispense pas des choses qui entrent en existence est soi-même entré en existence. Donc, celui qui caractérisait parce qu'il entre en existence, forcément, il est entré en existence, à savoir toutes les créatures. Et soi-même entré en existence, par conséquent, les corps sont donc entrés en existence. Il y a dans cette preuve trois implications. La première, l'affirmation que les corps ne se dispensent pas d'être en mouvement ou immobile, et ceci est apparent et obtenu par l'évidence. Cela ne nécessite pas de réflexion. De sorte que quiconque dirait qu'un corps n'est ni immobile ni en mouvement, ferait preuve d'orgueil face à la réalité. Donc c'est impossible qu'un corps ne soit ni en mouvement ni immobile. Nécessairement, il est soit en mouvement, soit immobile. La deuxième, notre affirmation qu'ils sont tous les deux, c'est-à-dire le mouvement et l'immobilité entrés en existence, ceci est indiqué par leur exclusion mutuelle dans l'alternance. Ainsi, ce qui arrive comme immobilité ou comme mouvement est entré en existence. Du fait que c'est arrivé à l'existence et ce qu'il a précédé entrer en existence du fait de son anéantissement. C'est-à-dire, il s'alterne. S'il y a le mouvement, il n'y a plus d'immobilité. S'il y a l'immobilité, il n'y a plus de mouvement. Donc, il rentre en existence. Il existe après néant. Donc, la troisième, notre affirmation que ce qui ne se dispense pas des choses entrées en existence est en soi entré en existence, ceci vient du fait que s'il n'en était pas ainsi, il y aurait avant chaque chose qui entre en existence des choses qui entrent en existence sans début. Et ceci est impossible selon la raison. Ainsi, on donne l'exemple de quelqu'un qui s'attacherait à dire « Je ne donnerai à un tel un dirham que si je lui ai donné un dirham auparavant. Et je ne lui donne un dirham auparavant que si je lui ai donné un dirham auparavant et ainsi de suite sans début. » Il est donc reconnu par évidence que le don du dirham promis est impossible selon la raison du fait que cela dépend de quelque chose d'impossible, à savoir l'aboutissement de ce qui n'aurait pas de point de départ. Cela ne fait aucun doute que celui qui prétend l'existence des choses qui entrent en existence sans qu'il ait de début rentre dans le cadre de cet exemple. Donc c'est impossible que l'existence des choses présentes dépend de l'entrée en existence de choses avant elle, qui dépend de l'entrée en existence d'une chose avant elle, sans début. Donc dépendre de quelque chose qui ne commence pas, ça veut dire au final, cette chose n'existerait pas. ce qui est contraire à la réalité même. On voit bien que ces choses existent, donc forcément, elles ont un début. Et celui qui leur a donné le début, lui, n'a pas de début. Et c'est Dieu. Donc, prétendre qu'il y a l'enchaînement sans fin, c'est comme dire je te donne quelque chose que si je t'aurais donné cette chose avant. Je te donne 1 euro que si je t'aurais donné 1 euro avant, et je te l'aurais donné avant que si je te l'aurais donné avant. C'est-à-dire dépendre de quelque chose qui ne commence pas. Donc au final, il n'aura pas le 1 euro parce que ça dépend de quelque chose qui ne commence pas. Et prétendre à l'enchaînement sans fin des créatures, prétendre que des créatures créent des créatures sans fin dans le passé, c'est dire que les créatures présentes ne peuvent pas exister car elles dépendent de quelque chose qui n'a pas de commencement dans le passé. En résumé, nous disons, du fait que l'entrée en existence du mouvement et de l'immobilité est confirmée, l'entrée en existence des corps est elle-même confirmée, car ce qui accepte les choses entrées en existence est en soi entré en existence. Par conséquent, puisque l'univers est composé de choses qui entrent en existence, il est donc entré en existence. Donc, selon la raison, ces corps-là changent d'un état à un autre. Donc forcément, elles sont créées parce que elles ne se dispensent pas des choses qui entrent en existence. Vu qu'elles changent, c'est que il y a qui les fait changer. Ne peuvent pas se changer elles-mêmes, la chose ne peut pas se créer elle-même, et le corps ne peut pas créer un autre corps. Et de même, on a dit, c'est impossible, l'enchaînement sans fin, car faire dépendre l'existence des créatures présentes de quelque chose qui ne commence pas dans le passé, et ce qui dépend de ce qui ne commence pas, donc il ne peut pas exister. Donc sachez que l'existence de l'univers est une preuve de l'existence de Allah, parce qu'il n'est pas valable selon la raison qu'un acte quelconque existe sans auteur. De même, il n'est pas valable qu'un coup existe sans qu'il y ait frappé, ni l'existence d'un texte ou d'une écriture sans qu'il y ait composé, écrit, ou une construction sans constructeur. Alors, à plus forte raison, il n'est pas valable selon la raison que cet univers existe sans créateur. Et la connaissance de cela est inscrite dans la nature première des enfants. Ainsi, si tu tapes le dos d'un enfant sans qu'il te voie et que tu dis que ce coup a eu lieu sans aucun l'auteur, il ne te croit pas. Il n'est pas valable que cet auteur soit la nature, parce que la nature n'a pas de volonté, alors comment créerait-elle ? Donc la nature n'a pas de volonté, alors comment créerait-elle ? Comment spécifierait-elle ce qui n'existe pas par l'existence du lieu de l'inexistence, puis par un état plutôt qu'un autre ? Il est bien connu que les choses qui entrent en existence ont une existence qui est possible, du fait qu'il est possible selon la raison qu'elles persistent dans le néant, sans apparaître à l'existence. Alors, du fait qu'elles ont été spécifiées par l'existence, possible selon la raison, elles ont donc besoin de qui les spécifie. Il est donc impossible que celui qui les spécifie soit la nature qui n'a pas de choix ni de volonté. Il ne peut donc provenir d'elle de spécification des choses possibles par l'existence plutôt que le néant, et par une époque plutôt qu'une autre, ou une caractéristique plutôt qu'une autre, telle que la spécification de l'être humain par la marche sur 2 jambes au lieu de ramper sur le ventre comme le serpent. Donc la nature elle-même, c'est une créature. La nature, donc l'ont défini les savants, c'est les caractéristiques que Dieu a fait sur laquelle a créé les corps, comme la froideur de la glace, la chaleur du feu, etc. D'autres savants, ils ont défini par ce qui arrive habituellement. Habituellement, le feu, il brûle. Les corps qui brûlent. Mais si Dieu veut, le feu ne brûle pas, comme Saïd Ibrahim, le prophète Ibrahim, le feu ne l'a pas brûlé. Donc, c'est ce qui arrive habituellement. Donc, ce n'est pas une nécessité rationnelle, mais c'est juste une habitude. Dieu a fait que l'habitude, tel corps, il a telle caractéristique. De plus, la nature fait partie de l'univers. Il nous apparaît par la preuve rationnelle que l'univers dans son ensemble ne s'est pas créé lui-même. Et par conséquent, il n'est pas possible qu'une partie de l'univers l'ait créée. Et de même, il n'est pas valable selon la raison qu'une chose se crée elle-même, car il y aurait en cela la réunion de 2 choses incompatibles. En effet, si tu dis « Zayd s'est créé lui-même », tu aurais fait exister Zayd avant lui-même d'un certain point de vue et après lui-même du point de vue. Du point de vue que tu l'as considéré créateur, tu l'as rendu antérieur, et du point de vue que tu l'as considéré créé, tu l'as rendu postérieur. Et ceci est impossible selon la raison. Il n'est pas valable également selon la raison qu'une chose crée son semblable, c'est-à-dire ce qui aurait une ressemblance avec elle, car chacun des deux semblables n'est pas prioritaire sur l'autre à le créer. Par conséquent, le père et le fils, il n'est pas valable que l'un des deux crée l'autre, car chacun des deux n'existait pas puis a existé. Quiconque utilise correctement sa raison aura su que cet univers a existé après ne pas avoir existé. Ce qui existe après ne pas avoir existé a indispensablement qu'il l'a fait exister, c'est-à-dire qu'il l'a fait surgir du néant à l'existence. Le créateur attribué de vie, de l'omniscience, c'est-à-dire Dieu il sait toutes choses, de la toute-puissance et de la volonté. Donc le créateur, Allah Ta'ala. Donc selon la raison n'accepte que le fait que toutes ces créatures-là ont un début, et celui qui leur a donné le début, lui, n'a pas de début à son existence. Et c'est Dieu. Il n'est pas valable que l'existence de l'univers soit due au hasard, car la raison rend impossible l'existence de quoi que ce soit sans auteur, car cela impliquerait l'impossible, à savoir la prévalence de l'existence d'une chose possible sur son inexistence, sans qu'il la fasse prévaloir. Et ceci du fait que l'existence et l'inexistence de ce qui est possible sont deux choses équivalentes du point de vue rationnel. L'existence et l'inexistence sont équivalentes rationnellement. Par conséquent, l'un ne prévaut pas sur son contraire sans l'acte de qui fait prévaloir. Donc, il n'est pas valable que l'existence de l'univers soit due au hasard, car la raison rend impossible l'existence de quoi que ce soit sans auteur, car cela impliquerait l'impossible, à savoir la prévalence de l'existence d'une chose possible sur son inexistence sans qu'il la fasse prévaloir. Et ceci du fait que l'existence et l'inexistence de ce qui est possible sont deux choses équivalentes du point de vue rationnel. Par conséquent, l'un ne prévaut sur son contraire que par l'acte de qui fait prévaloir. Donc confirmation qu'Allah est le créateur de l'univers et que les créatures n'ont aucune ressemblance avec lui. Sache que Allah est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité. Car s'il y avait deux créateurs pour l'univers, il serait obligé que chacun des deux soit vivant, tout-puissant, omniscient, ayant une volonté, un choix. Et deux êtres ayant le choix, il leur est possible d'être en désaccord dans leur choix, car chacun d'eux n'est pas contraint d'être en accord avec l'autre dans son choix. Car s'ils étaient contraints, celui qui est contraint ne peut pas être Dieu. Si l'un des deux voulait le contraire de ce que voulait l'autre concernant quelque chose, alors c'est impossible que les deux volontés se réalisent, car il est impossible que quelqu'un soit mort et vivant à la fois, du fait que rationnellement il est impossible la réunion de deux choses opposées. Donc ici c'est par exemple l'un d'eux voulait la vie de quelqu'un et l'autre voulait sa mort. Donc c'est impossible la réunion la réalisation des deux volontés, car ça mène à la réunion de deux choses opposées, ce qui est impossible rationnellement. Et si la volonté des deux ne se réalise pas, alors celui dont la volonté ne se réalise pas ne peut pas être Dieu. Et si la volonté de l'un d'eux se réalise alors que la volonté de l'autre ne se réalise pas, alors celui dont la volonté ne se réalise pas serait impuissant. Il est impossible que l'incapable soit Dieu ou éternel. Et comme on a dit, si les deux volontés ne se réalisent pas, alors l'impuissance est confirmée pour les deux. Cette preuve montre clairement qu'il est impossible qu'il y ait deux dieux. Cette preuve est connue chez les savants sunnites sous le nom de la preuve d'exclusion mutuelle. Dalil Taman, en arabe, elle est tirée de la ayah. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سورة الأنبياء. Qui signifie, s'il y avait pour les cieux et la terre un dieu en dehors de Dieu, il ne serait pas en harmonie. Ici, bien sûr, ça veut dire s'il y avait pour les cieux. Ça ne veut pas dire que dans les cieux, parce que rationnellement, c'est impossible que le créateur soit un corps. Et celui qui est dans quelque chose, c'est un corps. Et c'est une preuve qu'on peut donner facilement aux religions, parce qu'on a dit l'islam est la seule vraie religion, aux religions qui disent... que Dieu habite le ciel, notre Père au ciel, des choses comme ça, ou sectes qui disent que Dieu habite le ciel sur le trône, la secte wahhabite prétendue salafite notamment. Il suffit de leur dire qui a créé le ciel, qui a créé le trône, qui a créé le paradis. Ils sont obligés de dire ils savent à ce niveau-là que c'est ça y est, ils sont bloqués. Et on voit bien à plusieurs reprises, quand on parle avec des wahhabites, on leur dit cette question, ils commencent à trembler vraiment, pour de vrai. Ils savent, ça y est, ils peuvent plus aller plus loin. Leur shaitan, il commence à, ça y est, à dire, ça y est, il a peur qu'il quitte l'égarement. Et de même, avec les autres religions, c'est une preuve simple, on l'a déjà essayé plusieurs fois et ça marche, sans beaucoup de discussions. Il suffit de leur poser, qui a créé le ciel? Parce que ce genre de personnes, ils vont dire, ils sont obligés de dire, c'est Dieu. Avec un athée, il faut des preuves plus détaillées, qu'on l'a montré. S'il y a un acte, il y a l'auteur de l'acte, que ces créatures admettent le fait d'exister ou non, d'exister à telle époque ou non, ou autre. Forcément, il y a qui a fait prévaloir ce qui est prévalu, le fait qu'ils existent, au lieu qu'ils n'existent pas, ces créatures. Donc ça, c'est une preuve pour les genres de personnes athées. Pour le genre de personnes qui reconnaissent, on ne dit pas qu'ils croient et sont croyants, mais ils reconnaissent qu'il y a l'existence de Dieu, mais ils ont une mauvaise croyance sur Dieu. Il suffit de leur dire qui a créé le ciel. Ils sont obligés de dire c'est Dieu. Donc Dieu existe avant le ciel, sans le ciel. Et deuxième chose, celui qui est dans le ciel, il a une forme, une quantité. Il est localisé, quantifié. Celui qui le quantifie a besoin de qui l'a quantifié. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. Donc s'il y avait pour les cieux et la terre un Dieu en dehors de Dieu, il ne serait pas en harmonie. Parce que ça mène à l'impossible. Parce que s'il y avait de Dieu, forcément, ils ont la volonté. Parce que déjà, celui qui n'a pas la volonté, il ne peut pas être Dieu. S'il y avait de Dieu, l'un, il voulait, donc il n'est pas obligé d'être en accord avec l'autre, sinon il serait contraint. Donc, s'il voulait le contraire de l'autre, donc en une chose, comme qu'une personne existe, l'autre, il aurait voulu qu'elle n'existe pas, c'est impossible, la réunion de deux volontés, car ça mènerait à la réunion de deux choses opposées, ce qui est impossible. Ici, la volonté des deux ne se réalise pas, donc ça confirme l'impuissance pour les deux. Ici, la volonté de l'un se réalise et pas de l'autre, ça confirme l'impuissance pour celui dont la volonté ne s'est pas réalisée. Au final, ça montre que c'est impossible qu'il y ait de Dieu. Donc l'éternité est obligatoire concernant Allah, dans le sens de l'exemption de début. Or, la preuve de son éternité, Ta'ala, est la suivante. S'il n'était pas éternel exempt de début, cela impliquerait son entrée en existence. Il aurait besoin de qui le fait entrer en existence. Or, ceci implique le cycle ou l'enchaînement sans début. Et chacun des deux choses est impossible, comme montré précédemment. C'est impossible que quelque chose est créé par une chose qui dépend d'une autre chose qu'il a créée avant, c'est-à-dire, ça dépend de quelque chose qui ne commence pas dans le passé, ça veut dire, ça peut pas exister. Comme de dire, je te donne une chose que je t'aurais donné une avant, que je t'aurais donné une avant, c'est-à-dire, c'est conditionné par ce qui n'a pas de point de départ. Donc ça, c'est impossible. Et le cycle, c'est impossible, ça veut dire c'est impossible qu'une chose se crée elle-même ou c'est impossible que A crée B, qui crée C, qui lui-même a créé A. C'est impossible. C'est parce que dire que tantôt il existe avant lui-même et tantôt il existe après lui-même. La première des créatures que Dieu a créée, c'est l'eau. Dieu fait passer les choses d'une unité à l'existence. Donc Dieu a créé la première des créatures, c'est l'eau, et il a fait que l'eau, c'est l'origine des autres créatures. Mais la première des créatures que Dieu a créées, c'est l'eau. Donc, et puisque l'on a montré l'obligation de l'éternité sans début pour Dieu, selon la raison, il est obligatoire l'exemption de fin. Car s'il lui était possible l'anéantissement, cela rendrait impossible l'exemption de début le concernant. Donc forcément, Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Car celui qui admet le néant, il fait partie du possible, parce qu'il admet les deux, l'existence et le néant. Or Dieu, son existence est obligatoire. Or Dieu, son existence est obligatoire selon la raison. Et la non-ressemblance avec les créatures est obligatoire pour Allah, car la similitude d'une chose avec une autre signifie que les deux choses soient aptes à remplacer l'autre, c'est-à-dire que tout ce qui est valable pour l'une est valable pour l'autre. Or, aucune des créatures ne le remplace en quoi que ce soit des attributs. Donc, Dieu n'a pas de ressemblance avec les créatures, c'est impossible. Donc, l'impossible ne peut pas devenir possible, c'est une chose importante aussi. Parce qu'on tombe sur certains, quand quelqu'un ne maîtrise pas, il fait des débats avec des gens, ils vont dire, souvent, ils vont dire, ceux qui disent Dieu est trois, etc., ils vont dire Dieu tout-puissant, il peut avoir un fils. L'impossible ne peut pas devenir possible. 1 plus 1, il ne peut pas être égal à 1. Ou la moitié de 2 ne peut pas être égal à 2 ou plus grand que 2. C'est impossible. C'est une impossibilité rationnelle. Donc l'impossible, il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc ça, c'est une preuve très importante pour ne pas tomber dans le piège. Il y a d'autres, ils vont dire Dieu, ils vont dire Dieu passer un entier lui-même ou être une mouche. Comme ceux qui disent Dieu peut avoir un fils, c'est rendre possible l'impossible. Donc on dit la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible ni l'obligatoire. La puissance de Dieu concerne le possible. Par sa puissance, il crée l'anéanti. Donc on dit Dieu peut créer un être humain d'une grande taille ou de petite taille ou un être humain qui vole, etc. Ça, tout ça, c'est le possible rationnel. Ou le feu, il brûle ou il brûle pas, etc. Ça, c'est du possible rationnel. Ou l'eau qui se met debout, comme pour Seydna Moussa, ou le bâton qui se transforme en serpent. Il passe d'un état à un autre. Mais la réunion de deux choses opposées en même temps, c'est impossible, comme le mouvement et l'immobilité. Donc la puissance de Dieu concerne le possible rationnel. Donc c'est ça la réponse à donner. Ne concerne pas l'impossible, c'est l'absurde. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui disent Dieu peut être une mouche ou certains sectes. Un des références très des extrémistes, il disait ça dans ses livres. Il disait Dieu peut être sur l'aile d'une mouche. Et ça, ça montre la stupidité de la personne. Il n'y a pas d'excuse en cela. C'est démentir la raison clairement. Donc comme ceux qui disent que Dieu peut avoir un fils ou des choses comme ça, c'est rendre possible l'impossible. L'impossible ne peut pas devenir possible. C'est changer la réalité. Donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu concerne le possible, rationnel. Par sa puissance, il crée l'anéanti. C'est ça que ça veut dire Dieu est tout-puissant sur toute chose. Chose ici, c'est tout ce qui est possible. Que le feu brûle, il ne brûle pas, qu'il crée des animaux très grands, ou il y a des anges tellement grands, ils peuvent mettre à avaler la terre. Donc, il y a différentes sortes de créatures. Ça fait partie du possible. Et les miracles même des prophètes, ça fait partie du possible. Sauf, c'est contraire à l'habitude extraordinaire. Donc, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Donc, ça, c'est à retenir par cœur. Ne concerne pas l'impossible ni l'obligatoire. Donc celui qui vous dit est-ce que Dieu peut être une mouche ou avoir un associé ou créer un Dieu comme lui ou s'anéantir, tout ça c'est de l'absurde, c'est un blasphème. Donc il ne faut pas dire oui ou non. Donc on explique clairement que l'associer à Dieu, l'anéantissement, le corps, la quantité au sujet de Dieu est impossible rationnellement. Et ce n'est pas valable rationnellement que ça existe. Comme on ne va pas dire est-ce que Dieu peut faire en sorte que 2 plus 2 est égal à 1. C'est de l'absurde. Il ne faut pas dire oui, c'est un blasphème. Il ne faut pas dire Dieu est incapable non plus. C'est un piège. On dit c'est quelque chose d'impossible et l'impossible n'admet pas de fait d'exister. Et la puissance de Dieu concerne le possible rationnel. Donc l'impossible n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc ça c'est retenir l'argumentation. Parce que ça peut arriver, on l'a déjà vu, ils vont arrêter ceux qui disent que Dieu a un fils, ils arrêtent les gens, ça arrivait, on l'a vu directement. Dehors, ils vont arrêter ou toquer chez les gens, ils vont dire ce piège-là. Ils vont dire, vous dites Dieu tout-puissant, donc il peut avoir un fils. Et on a vu des gens, pourtant d'apparence, soi-disant, ils pratiquent, ils ont dit Dieu peut avoir un fils. Et ça, c'est un blasphème, ça annule l'islam. C'est comme dire Dieu peut s'anéantir ou avoir un associé. C'est rendre possible l'impossible, c'est de l'absurde. Donc on dit directement, l'associer à Dieu est impossible. Et l'impossible ne peut pas exister. Le fils est impossible, le fils implique la partition. Et comme le prophète il a répliqué à des chrétiens, en leur montrant que le fils, celui qui a un fils, il a un semblable. Le fils est une partie du père, et celui qui est partitionné, il est quantifié. Et celui qui est quantifié, c'est une créature. Donc il faut donner des réponses claires et réfléchies, et pas comme ça se hâter à dire n'importe quoi. C'est pour ça l'importance de la science. Vous voyez, c'est pour ça les savants ils disent la science, elle te garde. L'argent, c'est toi qui le gardes, la science, elle te préserve. Avec peu de science, tu peux te protéger. Donc vous voyez, ces explications ne citent pas des longues années d'études. Et des gens, ils font plein d'années d'études, ils ont doctorat, ils n'ont pas eu ces explications-là, ils s'égarent. C'est pas beaucoup de connaissances, c'est bien comprendre. C'est pour cela que c'est enseigné à 7 ans. Notamment dans le livre Ibn Ashr, c'est l'introduction, il parle des jugements selon la raison. Jugement selon la raison, l'introduction dans son, de, ce, de son livre Mourshid al-Mu'in, qui était enseigné dès 7 ans. Donc ils font cela pour préserver certains gens dans le passé. Ils ont suivi les philosophes, ils sont égarés, ils ont rendu possible l'impossible, ils sont égarés. Des gens très connus, même à Cordoue. Les musulmans, ils ont déclaré mécréants parce qu'ils ont rendu possible l'impossible. Pourtant, ils maîtrisaient beaucoup de choses dans la jurisprudence. Ils sont égarés. Il y a des noms très connus, ils sont égarés en rendant possible l'impossible. Et de nos jours, on voit des gens dans les pays arabes, certains font des études à l'université, ils étudient un peu la philosophie, ils deviennent des athées. Parce que ils n'ont pas appris ces règles de base, comment utiliser sa raison, et il n'a pas d'excuse, bien sûr. Quelqu'un qui a la raison, qui est pubère, qui a entendu la base de l'appel d'islam, c'est pas quelqu'un qui vit dans une jungle isolée, lui, il va rendre des comptes. S'il meurt avec la mauvaise croyance, c'est l'enfer pour l'éternité. Parce qu'il n'a pas utilisé sa raison correctement. Parce que ces gens-là, si tu leur dis, écoute, la moitié de 50, c'est égal à 10, donc, tu me donnes 50 euros, je te donne 10, parce que 10, c'est plus grand que 50, il va dire non. Il sait bien rationnellement que 50, c'est plus grand que 10. C'est une plus grande quantité. C'est impossible que ça soit plus petit. Donc il utilise sa raison au final, c'est pas un fou. Mais il néglige au sujet de la croyance, donc il n'a pas d'excuse. Qui est excusé? Celui qui est fou. Il n'a pas la raison. Il est malade et il n'a pas la raison. S'il n'avait pas la raison avant la puberté, aussi bien qu'après, il ne rend pas des comptes. C'est-à-dire il va au paradis. C'est pour cela qu'on revient au début, on l'a vu, donc c'est important ceux qui n'ont pas écouté la première partie, les ayats. Allah Ta'ala dit: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ils ont dit: si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc la raison est une preuve, contrairement aux autres religions et aux sectes extrémistes qui prétendent qu'on n'utilise pas sa raison pour croire à n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils propagent le wahhabisme dans les pays musulmans. Comme il a dit d'ailleurs le gouverneur, il a dit: on a propagé le wahhabisme à la demande des occidentaux pour rendre les gens bêtes et les utiliser pour détruire les pays musulmans comme on le voit, et prendre les richesses des pays musulmans et propager, détruire l'islam avec la secte wahhabite qui se prétend salafite. Donc ça, c'est l'épreuve très importante. Donc on expliquera inshallah la fois prochaine les détails sur la nouvelle, parce que la source de connaissance, il y a la raison, il y a la nouvelle, comme de savoir les pays lointains, tu doutes pas qu'il y a la Chine, pourtant tu l'as pas vu, parce que beaucoup de gens ils ont vu, qui ont rapporté à d'autres, ou qu'il y avait Napoléon ou Lénine ou des choses comme ça. Aussi, ça entraîne la raison entraîne connaissance catégorique irréfutable, et la nouvelle véridique elle entraîne connaissance catégorique, comme de savoir que une telle c'est ta mère, tu l'as pas vu, mais c'est avec la nouvelle que confirmée par plusieurs gens. Donc, et les sens qui sont sains. Si tu mets du sel dans ta bouche, tu as une information catégorique et irréfutable que c'est du sel, c'est pas du sucre. Le goût, le toucher, la vue, le goût, le toucher, l'odorat. L'ouïe aussi. Donc ça, on verra en détail la prochaine fois, inshallah. Donc c'est important de réviser, de réécouter plusieurs fois. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursaleen wa Khatamin Nabiyyin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين